France Inter. .com.
Il est presque 8h moins le quart. Bonjour mon cher Alain Baraton.
Heureux de vous retrouver Patricia. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonheur partagé. Aujourd'hui 1er novembre, vous nous parlez bien sûr des chrysanthèmes. Mais enfin, je dois dire que ceux que vous évoquez sont plutôt incroyables.
Eh oui, je vous ai d'ailleurs amené une petite photo pour vous faire une idée.
C'est absolument magnifique.
Ils sont deux chrysanthèmes du Japon qui ont parcouru 10 000 km pour venir fleurir sous le péristyle du Grand Trianon dans le parc du château de Versailles. Deux chrysanthèmes chouchoutés depuis des mois par 8 jardiniers japonais, que dis-je, par 8 maîtres jardiniers japonais, assistés depuis un mois par mes collègues, qui sont d'ailleurs tout aussi des maîtres jardiniers.
Et en quoi est-ce qu'ils sont incroyables ?
Pour leur beauté, bien sûr, mais aussi leur dimension. Chaque pied est large de 3,50 m et haut de 2,50 m. Chaque pied produit 406 fleurs, toutes alignées impeccablement. Le résultat est vraiment impressionnant.
Ça fait comme une espèce de cloche.
Ah, complètement. Mais c'est
une énorme cloche.
Oui, c'est étonnant. Oui. Et on est vraiment très loin de l'image que l'on se fait de cette plante, trop souvent appelée la fleur des veuves.
Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait venir des chrysanthèmes du Japon ? Il n'y a pas de quoi faire ici.
Ah oui, non, mais il y a une raison, bien évidemment. Le château de Versailles et le parc impérial de Shinjuku Kuyen à Tokyo ont signé un partenariat destiné à renforcer leur coopération à travers des échanges d'expertise et des expositions bilatérales comme Fleur impériale au Grand Trianon, qui permet ainsi aux jardiniers français d'apprendre de leurs homologues japonais, bien sûr, l'art de la taille et de la culture des Ozukuri, l'autre nom de ces fameux chrysanthèmes.
Et alors, si en France, le chrysanthème est associé au deuil, un petit peu de sérieux, en fait,
parce
c'est pas drôle ce dont on parle.
On parle de deuil, on parle de chrysanthème, Patricia.
Alors, est-ce que c'est la même chose au Japon ?
Alors, au pays du soleil levant, le chrysanthème symbolise la beauté, la joie et l'éternité. On lui attribue même le pouvoir, c'est vrai, de rendre la vie plus belle et plus longue. Mmh. C'est pour ces raisons que la fleur est le symbole de la famille impériale. Si vous allez tout à l'heure, Patricia, au Grand Trianon, que vous regardez les chrysanthèmes mieux que vous vous installez à côté, vous vivrez mieux et plus longtemps.
Ah bah chic, alors je prends. Ouais. Dites-moi, c'est la première fois que de telles plantes sont présentées ou y a
Oui, l'occasion de corriger quelques petites erreurs, j'ai lu ça et là dans la presse. Mmh. Il faut savoir que depuis l'exposition universelle de 1900, hein, les plants, parce qu'à l'époque, le Japon avait offert des plants, mais les plants n'avaient pas réussi à, j'allais dire, surmonter le voyage en mer qui était très long, et les chrysanthèmes n'étaient pas en état d'être présentés. Et deux chrysanthèmes ont bien été présentés lors de l'exposition universelle de Paris, mais c'était des chrysanthèmes fabriqués en France qui n'avaient pas, bien sûr, l'allure de ceux qui sont aujourd'hui présentés à Versailles. Alors, pour les apprécier, ceux de Versailles, il suffit de vous rendre dans les jardins du Grand Trianon tous les jours, sauf le lundi, jour de fermeture. Oui. À partir de midi, ça ouvre à midi. De ne pas oublier de vous pencher pour remarquer le pied, parce que c'est extraordinaire, quand on se penche, on voit qu'il n'y a qu'un pied, un petit pied tout frêle, qui va partir, se multiplier en 406 tiges pour offrir 406 fleurs. Le spectacle vaut vraiment le détour.
Oui, sur la photo, ça paraît assez incroyable.
Non mais ça l'est vraiment, puis c'est vraiment, au début on pourrait croire que c'est relativement kitsch, et quand on regarde, ça a beaucoup de noblesse, ça a beaucoup d'allure. Ce sont quand même les chrysanthèmes de l'empereur du Japon. C'est quand même pas rien. Sachez qu'ils seront visibles jusqu'au 15 novembre, si le temps le permet.
Courez-y en tout cas. Et on va écouter un petit peu de musique, évidemment. Après, il y aura les questions d'auditeurs, Mathieu Chédid. Mais avant, une petite blague ?
Non,
s'il
non.
vous plaît. Oh, si, s'il vous plaît.
Oh, vous insistez beaucoup, mais elle est de très mauvais
Brigitte
goût.
Brigitte Jean-Perrin vous la demande aussi.
Bon, alors je vais la raconter parce que nous sommes un jour de. Voilà, le 1er novembre, donc on célèbre les disparus. C'est un vieil homme qui est
mais
sur
son. Mais s'il est saint aujourd'hui, hein, c'est demain les
oui,
morts.
Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, on va parler. Cet homme était peut-être un saint aussi. C'est un vieil homme qui est sur son lit de mort. Il va mourir. Et il sent dans la chambre arriver un fumet. Il reconnaît la tarte aux pommes que son épouse a l'habitude de faire. Oh, il a vraiment envie d'en goûter avant de mourir. Il appelle son fils. Il lui dit : Mon fils, je t'en prie, va voir ta mère. Avant de mourir, je voudrais goûter une dernière fois cette tarte aux pommes. Le fils revient 5 minutes plus tard, les mains vides. Le vieux monsieur le regarde et dit : Et alors, ma tarte aux pommes ? Et le gamin lui répond : Maman a été intraitable. C'est pour après la cérémonie.
Sans bousculade, je dis aime. je dis hey, hey, hey. Dysfax dans mon rimeur, Paris au fil du cœur.
Mathieu Chédid, qui sera en concert le 28 novembre prochain à Paris, au Carreau du Temple.
Et je présente aux auditeurs mes excuses pour cette blague lamentable que j'ai osé raconter avant.
Chacun responsable de ses actes et de ses dires. Françoise de Nogent-sur-Seine a un cassissier planté il y a 3 ans et ses feuilles se replient sur elles-mêmes. J'ai enlevé toutes les feuilles au bord roulé, mais est-ce vraiment utile ?
Quand les feuilles se replient sur elles-mêmes, 2 cas de figure possibles. La première, problème d'arrosage, ça se voit, c'est donc pas ça. Deuxième problème, ce sont des petits insectes qui ont fait des piqûres, généralement pour pondre. Et la plante se referme sur elle-même pour créer une sorte de cocon. Donc effectivement, en supprimant la feuille, on supprime la bestiole. Vous me suivez ?
Sauf pour le moment, oui.
Sauf qu'en supprimant la feuille, c'est comme si on vous arrachait les poumons. Je veux dire que ce n'est pas non plus simple. Alors, s'il y a quantité de rejet, il n'y a pas de souci. La plante va redémarrer. Mais il faudrait mieux trouver la raison qui fait que les feuilles s'enroulent plutôt que de supprimer le mal. Ce n'est pas parce que vous avez mal au crâne, quand vous avez mal au crâne et que vous prenez de l'aspirine. Au bout d'un moment, si vous avez toujours mal au crâne, il faudrait peut-être savoir la raison avant de soigner le mal.
Autre question, toujours de Françoise de Nogent-sur-Seine. J'ai un plaque-minier en caisse d'1,20 m de hauteur. Croyez-vous qu'il puisse donner des kakis ? Car cet arbre d'ordinaire est de grand développement. Oui, je sais pas, parce qu'apparemment, elle le trouve trop petit, c'est ça, je comprenais
non,
pas la question.
Apparemment, si j'ai bien compris la question, ça veut dire que cette dame possède un plaque-minier en caisse. Elle voudrait savoir si elle peut espérer avoir des fruits, sachant
alors
que le plaque-minier.
Alors qu'il est en caisse,
dans la nature.
Il ne peut pas grandir plus.
Oui, un plaque-minier atteint alors allègrement les 10 mètres. Il faut savoir que plus la plante est maintenue petite dans une caisse, moins il va produire de fruits. En plus, ce n'est pas conseillé qu'il produise beaucoup parce qu'une plante en caisse souffre énormément. Vous imaginez, le fruit, c'est ce qui donne le plus de travail à un végétal. Les oranges, par exemple, quand on voit un oranger, eh bien, les jardiniers qui vont être en charge des plantes vivant en caisse vont supprimer quantité de fruits pour éviter que la plante ne souffre trop. Donc, que notre ami se rassure, s'il y avait quantité de fruits, ça pourrait amorcer le décès du végétal en caisse. Il vaut mieux avoir un plaque-minier en caisse avec très peu de fruits, voire pas de fruits du tout, que plein de fruits, car malheureusement, on peut difficilement concilier les deux en caisse et avec des fruits.
Rolande, charmante auditrice de 82 ans, dit que les feuilles de son marronnier se tachent en été et chutent prématurément. On me dit qu'il existe un traitement, vous dit-elle, mais ce traitement apparemment est fort coûteux puisqu'il coûte 500 euros.
Oui, alors Rolande, déjà j'en profite, un petit message personnel. Je voudrais remercier toutes les dames d'un certain âge, parce que les vieilles dames souvent me mettent leur âge quand elles m'écrivent, et c'est toujours très émouvant d'avoir des dames de 80, 90, 95, 97 ans. J'ai même eu une dame centenaire qui m'a écrit, et l'idée que l'on puisse converser et leur apporter, vous et moi, Patricia, un petit peu de bonheur, eh bien c'est pour moi une grande joie. Non, mais je tiens à le dire, parce que de temps en temps, je peux être d'humour un peu douteux, mais j'ai aussi, voyez-vous, des sentiments.
Loin de moi, cette idée.
Mais par contre, le problème, c'est que je ne me rappelle plus la question.
Alors, la question, c'est que les feuilles de son marronnier se tachent
en
été.
Non, déjà, un marronnier est un arbre de grande dimension. J'en déduis que l'arbre de notre ami est beaucoup trop important. Il faudra un hélicoptère pour le traiter. Deuxièmement, vraiment le tachement, enfin
la
coloration du feuillage en été est due
à
un champignon.
Voilà,
il n'existe pas vraiment de traitement curatif. 500 euros, ça reste une grosse somme aujourd'hui. Nous sommes à l'automne, les feuilles vont tomber, évacuer les feuilles. Ouais. Et si l'année prochaine, le printemps et l'été sont, j'allais dire, normaux, il n'y aura pas de problème. Souvenez-vous que cette année, l'humidité a été telle que tous les marronniers, sans exception, ont développé des champignons. Donc arrêtons de lutter contre le vide. On ne peut pas lutter de temps en temps contre les champignons quand ils sont en nombre.
Mon cher Alain, vous avez un conseil de lecture
à
nous donner.
Oui, un très joli ouvrage que je n'ai pas emmené pour ne pas que vous me le voliez. Les plantes qui guérissent, qui nourrissent, qui décorent, c'est signé de
Jean-Marie Pelt, ça.
Oui, très bel ouvrage, 496 pages. C'est un gros bouquin, toujours sublimement écrit, superbement illustré. 35 euros, voyez-vous, sous jaquette quand il est marqué sur la plaquette. Et c'est publié aux éditions du Chêne.
C'est une véritable épopée.
Tout à fait.
Je vous remercie beaucoup Alain Baraton.
Et ben moi aussi.
Vous allez repartir et revenir demain matin.
Avec plaisir, à demain.
Eh bien, on vous embrasse. Il est 8h05 sur France Inter.